enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Est-ce que vous êtes dans la paix aujourd'hui? Quelquefois, on trouve que la vie est compliquée. Est-ce que ça vous arrive? Hein, des fois, on le dit, oh là là, la vie, c'est compliqué. Des fois, on dit même, les gens sont compliqués. Hein. Oh, souvent, on dit, oh là, les gens sont compliqués. Tiens, l'autre jour, j'étais dans une pharmacie, et il y avait un monsieur devant moi, il s'adresse au pharmacien, il dit, monsieur le pharmacien, je voudrais des comprimés d'acide acétyl salicylique. Le pharmacien lui a dit, vous voulez de l'aspirine? Il a dit, oui, c'est ça, de l'aspirine. Je me rappelle jamais de ce mot-là. Vous avez des gens qui sont compliqués. Ils sont compliqués. S'il y a deux options, ils prennent celle qui est compliquée. Mais c'est compliqué parce que nous sommes compliqués. Le cœur, les hommes et les femmes, j'allais dire, les femmes plus encore, hein, mais... Non, c'est pire que ça. Alors, étudier la personnalité de l'homme, les réactions de l'homme, c'est très difficile, hein, c'est quelque chose qui dure longtemps. Et alors, ce matin, j'aimerais voir avec vous une histoire, et on pourra pas, elle est racontée longuement, et on pourra pas la lire en entier, quoique, des fois je me demande si ça serait pas ça encore le mieux. Moi, quand je la lis, c'est l'histoire de Tsafnat Paénak. Hein, vous connaissez tous cette histoire. Non? Ah oui, il s'appelle Joseph normalement, hein? Il s'appelle Joseph. Mais c'est pas le Joseph qui était le mari de Marie. C'est le Joseph de la Genèse. Hein? On parle souvent de Joseph, l'histoire de Joseph et ses frères. Joseph vendu par ses frères. Et à un moment, quand il est entré dans la dans son poste de ministre de l'économie ou ministre de l'intérieur, premier ministre, je ne sais pas, Pharaon lui avait donné un autre nom. Il lui a dit qu'il l'appelait Tsafnat Paénak. Mais nous, on a gardé Joseph parce que c'est plus intime. Et alors, je voudrais à la fois vous raconter cette histoire. On lira aussi on va en lire aussi des petits morceaux. Mais pour voir à la fois des choses qui sont intéressante à l'intérieur de cette histoire et pour voir aussi comment elle représente pour nous quelque chose par rapport à l'évangile. Je dis souvent que l'histoire, d'abord il faut remarquer que l'histoire de Joseph est une des biographies que nous avons dans la Bible les plus complètes d'un personnage biblique. Il y a très peu de personnages bibliques que l'on connaisse dans leur vie aussi bien, aussi précisément que ce Joseph, hein. Peut-être Abraham, quelques-uns, mais finalement assez peu. Et j'aime bien, pour moi, dans ma tête, l'histoire de Joseph, c'est un peu l'évangile dans la Genèse. Hein. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir, où on peut trouver une sorte de parallèle entre Joseph et Jésus. C'est comme si c'était un petit peu écrit des siècles et des siècles et des siècles à l'avance, une histoire dont finalement la structure, le déroulement est très très similaire. C'est d'une manière allégorique, c'est l'histoire de Jésus rejeté par ses frères, trahi, vendu, hein, de la même façon et qui finalement les sauve à la fin. Alors donc Joseph était le fils de Jacob, et Jacob, sans l'avoir choisi, avait eu plusieurs épouses, et donc il avait des enfants de chacun, hein, de Séli, comme on appelle ça,
Et donc des demi-frères qui entre eux s'entendaient pas, avec toutes les répercussions que ça fait dans des cas comme ça. Mais Jacob avait une préférence pour son fils Joseph, et non seulement une préférence, mais c'était une préférence qu'il avait vraiment affichée, ce qui fait que évidemment ça avait déclenché la jalousie de tous ses autres demi-frères. Et en plus, ce Joseph était un peu un visionnaire. Il avait eu, Samuel disait, quelqu'un qui avait eu des songes, et lui, il avait eu des songes aussi, et dans ce, qu'il avait raconté à ses frères. Et dans ses songes, il avait raconté que, d'une manière symbolique, que, en tout cas, il se voyait lui au milieu, et tous ses autres frères se prosternaient devant lui. Alors évidemment, ça les avait pas enchantés, quoi, hein. Ils étaient tous furieux contre lui, et puis ils étaient furieux de voir qu'ils étaient, par rapport à leur papa, ils étaient dans une sous-condition. Et un jour, profitant d'une opportunité où ils étaient loin de leur campement, alors ils ont vu Joseph arriver vers eux, et ils ont médité en eux, ils ont dit, tiens, regarde encore le notre songeur qui arrive là. On devrait le point depuis le... Et puis ils ont dit, mais oui, pourquoi pas. Et l'un des frères, Judas, a dit, bon, plutôt que de le... Ça lui faisait quelque chose quand même de tuer quelqu'un, hein, c'est vrai. Mais on n'aime pas tuer quelqu'un, hein. Alors, il s'est dit, au lieu de le tuer, comme par là passaient des marchands, des commerçants, une caravane, ils ont dit, on va le vendre. Et... ils l'ont vendu. Auparavant, ils l'avaient jeté dans un trou, une espèce de citerne où il n'y avait pas d'eau. Et puis eux, en haut, eh ben, ils mangeaient. Et vous imaginez, l'autre qui était en bas, c'était un adolescent, il avait 17 ans. Il était en bas, il criait grâce, il les appelait mes frères. Et les autres disaient, tiens, ouais, songe maintenant. Et pendant ce temps, lui, il mangeait. Et après, quand ils ont vu les marchands, ils l'ont tiré du trou, hop, ils l'ont vendu pour 20 pièces, je suppose qu'ils ont fait avec quelques sous, comme ça. Surtout, ils voulaient s'en débarrasser. Et Joseph, auquel jusque-là était promis un brillant avenir, qui avait un papa qui l'aimait, qui était dans l'abondance, tout d'un coup, tout s'est écroulé, tout a basculé. Et il est parti attaché, il est parti dans une, je sais pas, on l'a fait, peut-être il marchait attaché derrière les chameaux. C'est une caravane qui transportait du baume, du myrrhe, etc. Ça vous rappelle quelque chose, ces denrées-là? C'est les choses qu'on utilise pour faire la toilette d'un mort, à l'époque. Voilà, il lui manquait plus que de voyager avec un costume en sapin, et il avait tout. Il était mort. Tout d'un coup, il était mort. Il partait, il savait pas où, dans un pays dont il parlait peut-être même pas la langue. Il savait même pas où c'était. Il était mort. Et ce jeune homme, moi, une chose qui m'épate vraiment, c'est que ce jeune homme n'a pas été brisé par cette expérience. Quand il est arrivé là-bas, eh bien, immédiatement, il a commencé à trouver grâce aux yeux de son maître. Hein. C'est-à-dire qu'il a dû se comporter d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'il devait être gentil. Il devait être obéissant, il devait prendre des initiatives. Tout ce qu'on lui confiait, ça réussissait. De jour en jour, on lui donnait plus de responsabilités, et ça réussissait encore, et puis plus, et ça réussissait. Et Joseph a surmonté parce que c'était un homme de Dieu. Parce que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Parce que c'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Alors s'il avait une relation avec Dieu quand il était avec son papa, il avait aussi une relation avec Dieu quand il était en exil. Parce que Dieu couvre la face de la terre. N'importe où qu'il aille, de toute façon, quand même, Dieu était avec lui. C'est ce que dit le texte. Il prospérait parce que Dieu le faisait prospérer. Parce que, bien sûr, il souffrait. Bien sûr, j'imagine le nombre de nuits que Joseph a dû passer à pleurer, à sangloter. Il était déraciné, il était coupé de tout. Mais il a décidé qu'il allait se bagarrer quand même. Et Dieu l'a fait prospérer, Dieu l'a fait réussir. Alors il a eu encore pendant des années des hauts et des bas, et vraiment des choses terribles. Il a été, on a médit sur lui, on l'a accusé à tort, il a été condamné, il a refait de nouveau, il a refait quelques années de prison. Après, il s'est retrouvé, vraiment, il comptait sur quelqu'un, le gars l'oubliait, enfin c'était horrible. Comme ça, des hauts, des bas, tout ça, toujours des déceptions. Mais toujours, il se reprenait et toujours, il plaisait à ceux qui étaient à côté de lui. Et puis un jour, à force de que Dieu l'a sorti tout à coup de prison et il s'est retrouvé, je passe les détails, mais il s'est retrouvé à la cour de Pharaon. Tout d'un coup, il avait la chance de sa vie. Et tout à coup, il a trouvé grâce aux yeux du chef du pays. Et il est devenu, quasi instantanément, il est devenu le premier ministre, un esclave, le premier ministre du pays. Il avait les pleins pouvoirs. Pharaon ne voulait s'occuper de rien, il disait, mais Joseph s'occupe de tout. Il faisait tout. Maintenant, il avait 30 ans. Il avait perdu les plus belles années de sa vie. Mais c'est pas quelqu'un qui regardait constamment, on parlait tout à l'heure de ça, c'est pas quelqu'un qui regardait constamment dans son rétroviseur. C'est quelqu'un qui allait de l'avant. Il n'a pas dit, ouais, j'ai 30 ans, ben maintenant, 30 ans. Toutes mes belles années, de 17 à 30 ans, c'est tout gâché. Il a dit, ah, maintenant on y est. Et il a commencé à lutter. Et puis il y a eu, vous vous rappelez de cette histoire, il y a eu les 7 années de vache grasse, les 7 années d'abondance. Ils ont accumulé des biens, accumulé. Et puis après sont arrivées les années difficiles. Vous avez eu des fois des années avec des vaches grasses? Ben, il faut bien faire attention. Ça demande plus de sagesse que les années de vache maigre, parce que pendant les années de vache maigre, il n'y a plus rien à gérer, de toute façon, C'est quand c'est gras qu'il faut gérer, C'est là qu'il faut accumuler, c'est là qu'il faut faire des provisions, c'est là qu'il faut prévoir. Alors, la disette est arrivée, et maintenant, tout d'un coup, Joseph s'est mis à vendre du blé à tout le monde, parce que personne n'en avait plus. Et un jour sont arrivés les premiers pèlerins, les premiers clients qui venaient de l'extérieur. Et tout d'un coup, là, je pense que Joseph a compris toute l'histoire. Il s'est dit, mais les gens aussi des autres pays autour sont en train de mourir de faim. Ils vont tous venir petit à petit parce que nous seuls, nous avons accumulé. Alors il a dit, mes frères vont arriver. Ma famille va venir acheter ici du blé parce qu'il n'y a qu'ici qu'on achète du blé. Alors maintenant, il les attendait. Il a dit, maintenant, ils vont venir. Et il a réfléchi. Et vous savez cette histoire-là, Eh bien, ça faisait 21 ans depuis 21 ans qu'il ne les avait pas vus. Il ne savait même pas s'ils étaient encore en vie, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Et vous savez, en 21 ans après avoir subi une telle trahison, vous pouvez avoir été complètement rongé par l'amertume. L'amertume, c'est un peu comme de la rouille, si vous voulez. Si sur votre voiture, vous ne traitez pas, vous commencez à avoir un peu des points de rouille sur les longerons, là, vous ne les traitez pas, vous ne faites rien. Mais dans 20 ans, c'est quoi? Vous passez le moindre dos d'âne, vous sautez un trottoir, la voiture se casse en deux. Parce que la rouille l'aura rongé complètement depuis dedans. Si Joseph avait laissé la rouille commencer à gagner l'intérieur de son cœur, mais en 21 ans, vous imaginez dans quel état il aurait été. Alors là, je crois qu'il aurait attendu ses frères. Là, il aurait dit, ah, ils vont venir maintenant. Voilà. Maintenant, on va jouer la deuxième manche du match. Maintenant, on va voir. Ils vont venir. Tu vas voir comment je vais les recevoir, moi. Mais Joseph n'avait pas vécu comme ça. Il a dit, ils sont dans la détresse et moi je vais les sauver parce que moi j'ai à leur donner du blé qu'ils n'ont pas. Il avait fait son traitement anti-rouille. Il s'était gardé intérieurement. Alors, ses frères sont arrivés et eux, évidemment, n'auraient jamais pu soupçonner, même qu'il était vivant, ils ne savaient pas qu'il était vivant. Il commandait dans tout le... Je lis au chapitre 42, verset 6. Joseph commandait dans tout le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Et les frères de Joseph sont venus et ils se sont prosternés devant lui, le nez contre terre. Joseph l'a vu ses frères et les a reconnus, mais il a fait semblant d'être un étranger pour eux. Il leur a parlé durement. Il leur a dit, « Ouais, vous venez d'où ?» Mais ils ont dit, « On vient de Canaan pour acheter des vivres. Hein. » Joseph avait reconnu ses frères, mais eux, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Maintenant, il était habillé à l'égyptienne. Maintenant, c'était un grand personnage. Peut-être qu'il avait la coiffure spéciale avec cette petite tresse. Et puis, il leur parlait pas dans leur langue. Hein. Il parlait en égyptien, il se faisait traduire. Et eux, ils n'auraient jamais pu le reconnaître. Alors Joseph s'est souvenu des songes qu'il avait eus à son sujet. Il voyait que c'était en train de se réaliser à ce moment-là. Il leur a dit, « Non, je sais ce que vous êtes des espions. En fait, vous êtes venus pour observer les endroits sensibles du pays sous prétexte d'acheter du blé. Hein. » Mais ils ont dit, « Mais non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus juste pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. On dit la vérité. Nous ne sommes pas déceptions. » Il a dit, « Non, 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 rien à faire. Je sais. Vous êtes venus pour observer les endroits faibles du pays. » Ils ont dit, « Non, nous sommes 12 frères, tous les fils d'un même homme au pays de Canaan. Bon, le plus jeune est aujourd'hui avec son papa, et puis il y en a un qui n'est plus. » Joseph a dit, « Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes des espions. Et voilà comment je vais éprouver ce que vous avez dit. Ah, par la vie de Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez quelqu'un le chercher. Et vous restez prisonnier. On va voir si ce que vous avez dit est vrai. Et je vais savoir si vous parlez selon la vérité. Sinon, alors là, par la vie de Pharaon, vous êtes tous des espions. » Allez, hop, ils les ont tous mis en prison. Il les a laissés couvrir, laissés mijoter 3 jours. Le troisième jour, il les a fait revenir. Il leur a dit, « Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Parce que moi, je crains Dieu. » Vous voyez, il voulait leur rappeler qu'il faut peut-être un petit peu réfléchir autrement. Il a dit, « Quant à moi, je crains Dieu. Si vous êtes sincères, alors on va garder seulement un de vos frères qui restera enfermé dans la prison. Et puis vous partez, vous emportez votre blé, vous nourrissez vos familles. Et après, vous me ramenez votre petit frère pour que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourrez pas. » Et ils ont été obligés de faire comme ils disaient. Mais entre eux, ils se parlaient entre eux, croyant que lui ne les comprenait pas, puisqu'il était égyptien. Alors ils se parlaient entre eux et disaient, « Oui, on a été coupable envers notre frère. On a bien vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, quand il était au fond du trou, et on ne l'a pas écouté. Et c'est pour ça, maintenant, que cette affliction nous arrive. » Et le seul qui avait défendu Joseph, c'était son frère aîné, Ruben. Il a pris la parole, il leur a dit, « Hein, alors, qu'est-ce que je vous disais à ce moment-là? Je vous avais dit de ne pas faire un crime comme ça contre le petit. Et maintenant, vous ne m'avez pas écouté. Eh bien voilà, maintenant, on nous demande maintenant compte de sa mort. » Il ne savait pas que Joseph les comprenait, parce qu'il se servait d'un interprète. Alors il s'est éloigné d'eux pour pleurer, il était très 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 ému. Et puis il revint, et il leur parla, et il a pris parmi eux Siméon, et il l'a fait enchaîné pour le mettre en prison. Pourquoi il a pris Siméon? Parce que normalement il aurait dû prendre l'aîné, Ruben. Mais Ruben, c'est le seul qu'il avait réellement défendu à cette époque-là. Alors il a pris celui qui venait juste après Siméon. C'était le deuxième. Alors eux, ils sont rentrés maintenant à la maison, mais avec du blé, mais avec un de leurs frères en moins. Et quand ils sont arrivés à la maison, c'était pour eux, c'était terrible de se présenter devant leur papa, devant Jacob, et il manquait un des frères. Et quand ils ont ouvert leur sac, surprise supplémentaire, sur le blé de chacun, il y avait l'argent qu'ils avaient normalement donné pour acheter le blé, et dans chaque sac, il y avait l'argent. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire de fou. Comment ça se fait qu'ils se sont gourés, qu'ils nous ont refilé notre fric maintenant? En plus, on va passer pour des voleurs. On va retourner là-bas, ils vont nous mettre encore la main dessus. Oh là, mais c'est compliqué. C'était terrible. Et ils lui ont tout expliqué l'histoire. Et le papa, il voulait rien savoir. Ils ont dit, si on retourne, faut qu'on emmène Benjamin, le petit dernier. Parce que Joseph avait un vrai frère. Les autres, c'était tous ses demi-frères. Mais il y avait un petit frère qui s'appelait Benjamin. Et ça, c'était le nouveau chouchou du papa. Alors ils ont dit, si on redescend, faut qu'on emmène Benjamin. Jacob a dit, ça, c'est il a pas question. Hein, pas question. Joseph a disparu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et maintenant, Siméon n'est plus. Et voudriez encore me prendre Benjamin? Pas question. Ils ont dit, bon. Mais quand ils ont eu tout mangé, ce qu'ils avaient ramené, commencé à se regarder les uns les autres, ils serraient leur ceinture tous les jours, un peu plus. Mais un jour, ils sont revenus vers le papa, ils ont dit, papa, si on veut pas tous mourir, il faut qu'on retourne acheter du blé. Non, il a dit non. C'est au chapitre 43, verset 6. Il a dit non, Jacob a dit non. Pourquoi est-ce que vous avez mal agi à mon égard comme ça? Vous savez, des fois, quand quelque chose va mal, on continue de chercher des pourquoi. Pourquoi on aurait dû, pourquoi on n'aurait pas dû. Mais ça sert à rien. Hein, c'est comme, qu'allait-il faire dans cette galère, hein, c'est pareil. Pourquoi est-ce que vous avez mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Mais ils ont dit, mais est-ce qu'on pouvait deviner? Il nous a demandé, il nous a posé des questions sur nous, sur notre famille. Il nous a dit, est-ce que votre père vit encore? Est-ce que vous avez un frère? Ben, on a répondu à ces questions. Est-ce qu'on pouvait savoir qu'il nous dirait, faites descendre votre frère? Vous pouvez pas deviner quand même. Et Judas, le frère, hein, celui qui avait vendu, celui qui avait fait la promesse, la proposition de vendre Joseph en esclavage, a dit à son père, il a dit, écoute, laisse venir le petit avec moi. Laisse venir avec moi Benjamin. Il faut qu'on se décide, il faut qu'on y aille. Et puis qu'on parte. Hein. Et puis comme ça, on pourra vivre. Hein. Et puis on mourra pas, nous, toi, nos enfants, tout le monde. Oui, écoute, je réponds de lui, je m'engage pour lui. Tu me le redemanderas à moi. Écoute, si je ne te le ramène pas, si je ne le remets pas devant tes yeux, eh bien, c'est moi qui serai coupable pour toi. Écoute, si on n'avait pas tardé comme ça, on aurait eu le temps de faire deux fois le voyage. Bon. Jacob a dit, bon, puisqu'il faut, ben, allez-y. Et un peu plus loin, il dit, que Dieu vous fasse grâce. Et si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. C'est un homme vraiment cassé, recassé. Ce pauvre Jacob, qu'est-ce qu'il a souffert? Alors les autres sont repartis de nouveau, ils ont remporté l'argent qu'ils avaient ramené l'autre fois, et puis ils en ont ramené d'autres en plus, puis ils ont ramené des cadeaux, parce qu'ils se sont dit, il faut quand même essayer de l'amadouer un peu, l'autre, il a l'air... Hein? Il est chaud, hein? Quand ils sont arrivés là-bas, on les a reconnus, et Joseph a dit, faites-les vite venir dans ma maison. Alors, au lieu de rester dans la cour où se faisait le commerce, tout le business, voilà qu'on les amène dans la maison de Joseph. Ils ont dit, ça, c'est un traitement comme ça, c'est pour se jeter sur nous, hein? Là, ça y est, c'est notre dernière heure. Ils vont se jeter sur nous, ils vont nous tuer, ils vont nous prendre comme esclaves, ils veulent nous voler nos ânes. Vous pensez comme Joseph avait besoin de leur bourricot, hein? Mais des fois on est sot comme ça. Des fois on est sot, on s'imagine, Dieu veut faire quelque chose avec nous, et on le suspecte de vouloir nous arracher le petit peu qu'on a. Ils cherchent à nous libérer. Et eux, ils croyaient que Joseph, le grand Joseph, le premier ministre de l'Égypte, en voulait à leur bourricot. C'est bête, hein? Alors ils avaient peur. Ils étaient terrorisés. Et ils se sont vite dépêchés de voir l'intendant, de tout lui expliquer. C'est pas de notre faute, on nous avait remis l'argent, mais nous on l'avait pas pris. Nous, on l'a ramené d'ailleurs, on en a pris au double. Et puis on a amené des cadeaux. Mais il a dit, mais calmez-vous, n'ayez pas peur. Et même l'intendant de Joseph, c'était un homme de Dieu. Il a dit, mais c'est Dieu qui vous a fait ça. C'est Dieu qui vous a donné un trésor. Ils ont mangé avec Joseph. Enfin, Joseph était un petit peu plus loin. Et Joseph leur avait fait un petit coup. Il les avait fait mettre par ordre, par rang de naissance. Hein, du plus âgé au plus jeune. Et ils étaient tous en file comme ça, du plus âgé au plus jeune. Et ils se regardaient étonnés, ils ont dit, mais qui c'est qui leur a filé nos cartes d'identité? Non, attendez. 12 gaillards comme ça, 11. Ils ont dit, il nous a rangés par ordre, instinctivement comme ça. Il est fort le gars, hein. Oula, il est fort, hein. Et Joseph regardait son petit frère. C'était son vrai frère. Quand il l'avait quitté, il était encore tout petit comme ça. Ça faisait 22 ans qu'il l'avait pas vu. Il était tellement content de voir son frère. À un moment, il était tellement ému, il pleurait, il était obligé de vite de partir. Il s'est rincé un peu les yeux, il est revenu. C'est un premier ministre quand même, hein. Et puis ils ont mangé comme ça. Après, il les a libérés, ils sont repartis. Mais Joseph a dit à son intendant, dans le sac du plus petit, tu lui mettras ma coupe en argent, celle avec laquelle je bois. Hein, tu la caches dans son sac. Et puis, ils sont repartis. Et quand ils ont eu fait une heure ou deux de voyage, je sais pas, alors l'intendant est parti avec une grosse force militaire, ils les ont rattrapés, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait de voler la coupe? Ils ont dit, ça y est, ça recommence. Mais c'est pas possible. Mais c'est que ce coup-ci, on a quoi? C'est une guigne. Il a dit, vous avez volé la coupe. Et tous, ils étaient de bonne foi. Ils ont dit, cherche. Si vous trouvez votre fameuse coupe dans le sac, celui qui l'a pris sera votre esclave. Cherchez, allez-y. Ils ont cherché, en commençant du plus âgé au plus jeune. Elle était dans le sac du dernier. Là, les gars, ils comprenaient plus, hein. Ils ont dit, mais il se passe quoi? Ils n'ont même pas soupçonné Benjamin de l'avoir pris. Ils savaient bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Toute cette histoire est surréaliste, c'est surnaturel. Ils sont remontés sur leurs ânes pour retourner de nouveau là-bas. Ils disent, cette fois, ils vont nous massacrer. Quand ils sont arrivés, Joseph les attendait. Il leur dit, alors les gars, vous croyez que je peux pas deviner? Hein? Alors ils ont dit, mais non, excuse-nous, on ne sait pas, on ne comprend pas. Bon, Joseph a dit, je simplifie, il a dit, écoutez, c'est pas difficile, hein. Celui dans le sac duquel on a trouvé la coupe, il est mon esclave. Il m'a volé, je le garde. Vous pouvez partir. Et vous voyez, c'est là que Joseph voulait les amener. Parce que des fois, quand on lit tout ça, on se dit, mais pourquoi est-ce que Joseph a été si compliqué avec ça? Pourquoi il leur a pas dit tout de suite d'entrée, ouh, je suis votre frère? Ce qu'ils voulaient voir, c'était si leur cœur était changé. Ils voulaient les amener par une manière pédagogique, ils voulaient les amener à changer. Ils voulaient les aider à faire un retour sur eux-mêmes. Et il les a remis exactement dans la situation où on se trouvait il y a 22 ans en arrière. Parce qu'il y a 22 ans en arrière, le papa Jacob avait un préféré qui s'appelait Joseph. Et ses frères l'ont vendu pour se débarrasser de lui. Et maintenant, 22 ans plus tard, le papa Jacob a un préféré qui s'appelle Benjamin. Et ses frères peuvent le laisser pour sauver leur peau. Et Joseph veut voir ce qu'ils vont faire. Il pourrait dire, bon ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut que s'en aller. Mais maintenant, ils n'étaient plus les mêmes. Parce que pendant toute cette période, pendant ces allées et venues, ils ont compris qu'ils avaient été coupables. Ils ont compris combien ils avaient fait de mal. Ils sont revenus comme le fils prodigue, ils sont rentrés en eux-mêmes. Ils ont dit, nous avons été coupables. Avant, je pense qu'ils le savaient, mais ils n'avaient pas cette conviction de péché. Savoir qu'on est pécheur et avoir la conviction de péché, c'est complètement autre chose. Tous les gens savent qu'ils sont des pécheurs. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous êtes un pécheur? Le gars dira, oui, mais tout le monde l'est. Mais je ne le suis pas plus que les autres. Oh, il y en a qui font pire que moi, allez. Tout le monde a son excuse. Savoir qu'on est pécheur ou être convaincu de péché, c'est pas la même chose. Mais maintenant, eux, ils étaient convaincus. Eux, maintenant, ils pouvaient plus se justifier. Et plutôt que de dire tous, on peut rien faire, c'est le sort qui s'acharne contre ce pauvre Benjamin. Alors ils pouvaient pas se résoudre à le laisser là. Et j'aime bien que ce soit celui qui avait lui-même proposé de livrer son frère Joseph en esclave. Il s'appelle Judas, c'est lui qui a pris la parole. C'est au chapitre 44, verset 18. Alors ce Judas s'approcha de Joseph et lui dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur que je suis puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, tu es comme Pharaon. Tu nous as interrogés en disant, est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez un frère ? Et on t'a dit, oui, nous avons un vieux papa. Nous avons aussi un jeune frère, c'est l'enfant de sa vieillesse. Et cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Alors tu nous as dit, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Alors on t'a répondu, on t'a dit, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père va mourir. Mais tu nous as dit, oui, mais si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne me pourrez pas paraître devant moi. Et quand donc nous sommes remontés devant toi, devant notre père, nous lui avons rapporté tes paroles. Et notre papa a dit, retournez, achetez encore à manger. Mais on lui a redit, on peut pas. On peut pas redescendre parce que si notre jeune frère Benjamin est avec nous, on peut y aller. Mais parce que nous ne pouvons pas voir la face de cet homme si notre frère Benjamin n'est pas avec nous. Notre papa nous a dit, mais vous savez que ma femme a enfanté deux fils. L'un est sorti de chez moi, je pense qu'il a été déchiré par une bête féroce. Je ne l'ai jamais revu jusqu'à maintenant. Si vous me prenez encore celui-ci, Benjamin, s'il lui arrive un malheur, alors vous me ferez mourir dans le désespoir. Et maintenant, Judas dit à Joseph, « Maintenant, si je devais retourner chez mon père sans avoir avec nous l'enfant auquel son âme, son cœur est attaché, je ne peux pas. Il mourra s'il voit que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs, nous le ferons mourir dans le désespoir. » Moi-même, j'ai répondu pour l'enfant. J'ai dit à mon père, si je ne te le ramène pas, je serai moi-même coupable devant toi. Alors, Judas dit à Joseph, permets s'il te plaît, permets-moi de rester esclave à sa place. Permets-moi de prendre sa place. Je préfère rester comme esclave devant lui. Comment est-ce que je pourrais retourner vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Non. Je ne veux plus revoir le désespoir de mon père. Et voilà comment un homme a changé. Voilà comment un homme qui avait été capable pour une vingtaine de pièces de vendre son frère était maintenant capable, 20 ans après, pour son autre frère d'accepter volontairement de devenir lui-même esclave pour le sauver. C'est un changement, une transformation. Il y a dans cette histoire des choses qui sont capables de puissamment nous aider. D'abord, ça nous montre que nous pouvons changer. Nous ne sommes pas obligés de rester irréductiblement les mêmes. Nous pouvons changer. Ce Judas et ses frères étaient des gens tout à fait normaux. C'est vous et moi. C'est vous et moi, ce sont des gens qui ont été jaloux, qui ont eu des mauvaises pensées, et les opportunités de la vie les ont amenés à faire des choix. Bien sûr, nous n'avons jamais vendu personne en esclave, bien sûr. Mais quelquefois, il y a des gens qui, dans leur propre famille, dans leur propre foyer, sont dans des conditions qui ne sont pas terribles quand même, hein. Bien sûr, les opportunités n'ont pas été les mêmes, mais nous sommes de la même nature. Mais Judas a changé. Et vous savez ce qui l'a aidé aussi à changer? C'est ses propres épreuves. Parce que, entre ces deux épisodes, Judas, qui avait 4 enfants, en a perdu 3 tragiquement. Alors quand il en a eu perdu 3 et qu'il a vu ce que c'était que pour un père de perdre ses enfants, je pense que petit à petit, chaque coup dans son cœur a commencé à lui faire quelque chose. Et maintenant, il voulait plus. Et, vous voyez, je crois que il y a dans tout ça, c'est comme l'Évangile. Joseph est quelqu'un qui a été, il était parmi les siens, mais il a été rejeté. Il a été trahi. Est-ce que vous avez remarqué que même celui qui a vendu et qui a fait le négoce dans l'histoire de Jésus et dans l'histoire de Joseph porte le même nom? C'est deux Judas. Et cet homme-là, ce Joseph, n'a rien compris de ce qui lui est arrivé. Mais il lui a fallu voir ses frères arriver pour comprendre ce que Dieu était en train de faire. Alors, quand il a vu que maintenant il avait changé, Joseph a fait sortir tout le monde, il voulait être juste seul avec eux. Et tout d'un coup, il leur a dit qui il était. Vous imaginez le coup de théâtre? Vous imaginez, mais c'est comme si vous étiez dans un cimetière, puis vous voyez quelqu'un sortir d'une tombe. Non, mais c'est quand même terrible. Joseph, tout à coup, leur a dit, dans leur langue, il leur a dit, c'est moi, Joseph. Et quand ils le regardaient, ils étaient complètement, là, ils étaient scotchés, là. Joseph, ils le reconnaissaient pas, puis petit à petit, ils ont commencé à reconnaître sa nouvelle allure, ils ont commencé à le reconnaître. Joseph leur a dit, mais c'est moi, Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu en esclave. Je pense que pendant quelques instants, ils ont dû avoir tellement peur. Hein? Si Joseph avait fait juste un geste, toute une compagnie leur tombait dessus, les couper en rondelles, comme ça. Ils ont dû être terrorisés. Mais Joseph leur a dit, mais ne vous reprochez pas de m'avoir fait ça. C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Moi, je trouve ça, c'est une des déclarations les plus extraordinaires qu'on trouve dans la bouche d'un homme dans toute la Bible. Un homme qui a vécu une telle galère pendant 13 ans, des choses tellement épouvantables, et qui attribue tout son malheur de ceux qui l'ont trahi. Il dit, non, mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait, c'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez, on peut regarder toujours son passé de différentes façons. D'abord, Joseph ne passait pas son temps à regarder derrière. Mais quand il a fait le bilan pour regarder derrière, il l'a fait une fois, et il a compris que, en réalité, c'est Dieu qui avait agi. Joseph, si vous voulez, c'est comme s'il avait été volontaire, j'allais dire, il a été volontaire a posteriori, quoi. C'est pas lui qui avait voulu partir pour être esclave. C'est pas lui qui avait décidé. Mais quand il a réfléchi, il a dit, oui, je suis d'accord pour ça. Quand on était au Tchad, au début, au bout de nos enfants, pendant un moment, au début, ils étaient contents, enfin, ils découvraient tout ça. Et puis après, ça a été un petit peu difficile parce qu'ils avaient plus leurs amis, ils avaient plus de copains, tout ça. Et puis, puis il y avait beaucoup de choses qui manquaient, tout ça. Et j'ai vu qu'à un moment, les filles étaient un peu, le moral un peu dans les chaussettes. Alors bon, on essayait de discuter, je leur dis, mais avec Brigitte, on leur dit, mais écoutez, vous trouvez pas que c'est quand même bien ce qu'on fait là, c'est pour le Seigneur, on leur a montré tous les avantages, les objectifs, tout ça, mais elles n'étaient pas spécialement, forcément complètement enthousiasmées. Et nous ont dit, oui, mais ça, c'est votre décision, c'est votre travail, et nous, on est là parce que vous y êtes. Et c'était vrai. Alors, on était un peu embêtés. Alors, au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Soit vous décidez que vous êtes ici parce que seulement vous y êtes venus avec nous, et donc vous le subissez. Ou alors vous décidez que vous êtes venus volontairement. Vous décidez que c'est vous qui êtes venu, vous décidez que vous êtes aussi missionnaire, vous décidez que vous prenez une part active. Et alors à ce moment-là, ce que vous allez vivre ici sera complètement différent. Dans le premier cas, vous subissez, vous allez souffrir, ça va être toujours pénible, ça sera toujours amer. Ou alors dans le deuxième cas, c'est vous qui êtes acteur. Mais j'ai dit, mais je vous demande pas la réponse maintenant. Il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous pesiez, et puis après, il faut que vous preniez la décision de savoir si vous êtes venu ici, vous. Ah bon, d'accord. Alors, ils ont réfléchi. Et puis, je sais pas, peut-être 2 jours après, on en a reparlé, ils ont dit, oui, on a décidé qu'on est venu volontairement. Et ça a changé quelque chose dans leur approche. Joseph a décidé qu'il était venu en Égypte volontairement. C'est pas lui qui est venu. Les circonstances l'ont amené. Mais il a décidé qu'il était volontaire pour Dieu. Il a dit, je suis volontaire pour Dieu. Je suis volontaire pour sauver mes frères. Et sa vie a été une réussite. Et il a permis à ses frères d'être changés. Si lui-même n'avait pas changé, ses frères seraient morts dans leur tristesse. Ils seraient morts dans leur culpabilité, dans leur remords. Je suis sûr qu'à la maison, ils ne parlaient plus jamais de Joseph. C'était un sujet tabou. Mais maintenant, il leur a donné la possibilité d'être changés. Il leur a donné la possibilité de revenir sur eux-mêmes et de faire un acte héroïque eux-mêmes. Alors, ses frères l'ont reconnu et ils se sont réjouis tous ensemble. Hein. Après, ils ont fait venir le papa, hein, tout ça, c'était merveilleux. Mais même quand le papa, est des années après, quand le papa est mort, eh bien, de nouveau, ils avaient encore peur. Ils avaient encore peur. Ils se sont dit, mais maintenant que Jacob est mort, et si Joseph se souvenait de ce qu'on lui a fait? Parce que peut-être il nous a rien fait tant que le papa était vivant, parce qu'il voulait pas lui faire de la peine. Mais maintenant que le papa est plus là, imagine qu'il se rappelle tout ça et qu'il se dise, ah tiens, maintenant on va régler nos comptes. Alors ils ont encore un petit peu usé d'inventions, de subterfuges, soi-disant, ils sont allés trouver Joseph en disant soi-disant que le papa avait dit, tu sais, sois gentil avec... Mais Joseph, ça l'a fait pleurer, il a dit, mais est-ce que vous me connaissez pas encore? Est-ce que vous avez besoin d'inventer des trucs pareils? Est-ce que je vous ai pas dit que je vous ai pardonné? Je vous ai dit que moi j'ai considéré que c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Ne parlons plus de tout ça. Vous voyez comme des fois nous-mêmes nous sommes... Jésus nous a sauvés, on croit qu'il nous a sauvés, et quelquefois on continue encore d'avoir... C'est comme si on avait peur de lui. L'incrédulité, c'est comme une sorte de... une sorte de manque de confiance. L'incrédulité, c'est comme si on avait un peu peur de Dieu, c'est comme si on avait peur qu'il s'occupe pas de nous, qu'il prenne pas soin de nous. Alors on est inquiet sur la relation qu'on a. Mais si Jésus est mort sur la croix, vous croyez qu'après c'est pour nous laisser tomber? Moi je trouve étonnant qu'on arrive encore à se faire du souci, non? Moi je trouve c'est étonnant, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a reçu de lui, avec tout ce qu'il a fait pour nous, comment ça se fait qu'on se fait encore du souci? Est-ce que Dieu va pourvoir? Est-ce que Dieu va nous prendre en charge? Est-ce que Dieu va s'intéresser? Est-ce que Dieu même est... Mais il est mort sur la croix pour toi, tu te poses encore ces questions? Mais enfin, c'est des années après. C'est pas normal. Vous voyez, ce matin, je voudrais juste rappeler à quelques-uns. Je voudrais juste nous rappeler que nous pouvons avoir confiance dans notre Sauveur. Nous pouvons avoir confiance dans notre Sauveur. Nous avons un Sauveur qui est plus grand que Joseph. Joseph, c'est un homme et il a fait ce qu'il a pu. C'était limité, c'était extraordinaire, mais c'est limité. Mais nous avons un Sauveur qui a accepté volontairement d'être trahi, d'être vendu, d'être traité de mourir de la mort des esclaves. Et ce Jésus-Christ a donné sa vie pour que tout le temps nous ayons cette nourriture céleste, cette vie éternelle. Je voudrais vraiment dire à quelques-uns, peut-être, je sais pas, mais peut-être pour quelques-uns, il y a comme une espèce d'incrédulité. Est-ce que Dieu me pardonnera tout le mal que j'ai fait? J'ai fait tellement de choses, j'ai été tellement mauvais, j'ai été tellement coupable. Mais il est venu exprès pour ça. Jésus est venu sur la terre exprès pour ça. Peut-être que tu en as fait, quelqu'un dit, moi j'ai fait plus de péchés que les autres. C'est peut-être vrai. Peut-être que c'est vrai. Mais si tu crois en Jésus, le sang de Jésus te purifie de chaque péché. C'est écrit chaque, ça ne met pas de limite, c'est possible. Maintenant, je voudrais aussi interpeller ceux qui sont des disciples de Jésus depuis longtemps. Est-ce que nous sommes des Joseph? Est-ce que nous sommes capables de mourir un petit peu pour ceux que nous aimons? Est-ce que nous sommes capables de renoncer à quelque chose pour nos frères? Est-ce que nous sommes capables, lorsque quelque chose est difficile, d'y voir la main de Dieu, plutôt que de voir simplement l'insuffisance de l'autre, de voir ses limites, de voir son défaut, de voir son péché? Est-ce que nous sommes capables de chercher derrière ça, qu'est-ce que Dieu veut faire? Quelqu'un peut-être est là ce matin et dit, qu'est-ce que je fabrique dans cette église? C'est comme si j'étais en Égypte. Mais c'est Dieu qui t'y a amené. C'est Dieu qui t'a amené là. Dans ta famille, mais c'est Dieu qui t'y a mis. Dans ton boulot, mais c'est Dieu qui t'y a mis. Dans ton immeuble, mais c'est Dieu qui t'y a mis. C'est Dieu qui t'a amené là. C'est lui, il n'est pas étranger à ce qui t'arrive. Alors bien sûr, on peut toujours voir que c'est extérieur, c'est la faute des autres, c'est pas bien, c'est... Oui, mais là où Dieu nous met, Dieu nous donne des capacités pour faire et pour être les témoins qu'il croit être. Bien sûr, il y a beaucoup à dans le service de Dieu, il y a beaucoup à mourir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mourir. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut renoncer. Et c'est toujours délicat de parler du renoncement, parce que celui qui parle du renoncement, les gens le regardent et disent, mais est-ce que lui, il a renoncé à tout? Mais non, j'ai pas renoncé à tout. Mais ce que j'aimerais, avec la grâce de Dieu, ce que j'aimerais, c'est pouvoir un peu ressembler à des gens de la stature de ce Joseph. Des gens capables de préférer le salut des leurs au sien. Des gens comme Joseph, capables de regarder comme positif leur propre souffrance. Regarder comme quelque chose de bon, les difficultés même qui leur sont arrivées, afin de pouvoir aider les autres. Frères et sœurs, jusqu'à quelle est notre limite quand nous voulons faire quelque chose, quand nous voulons aider? Notre limite, c'est où? C'est dès que ça devient un petit peu fatigant, on arrête. Dès que c'est un petit peu contrariant, on arrête. Dès qu'on est un petit peu critiqué, on arrête. Dès qu'on entend dire que quelqu'un a dit quelque chose de mauvais sur nous, on arrête. Mais Joseph n'a pas fait ça. Joseph s'est donné complètement, pleinement, à fond. Il a donné sa vie pour ses amis, pour ceux qu'il aime. L'évangile est là-dedans. Jésus a dit, personne ne peut être mon disciple s'il ne me préfère pas à sa propre vie. C'est tellement entier, c'est tellement radical. Ça a l'air d'être, ça a l'air d'être un slogan. Mais c'est pas un slogan, c'est la vérité de l'évangile. On peut pas vivre ça comme ça, complètement, tout d'un coup, tous les jours. Mais si dans les petites choses de la vie, jour après jour, on arrive à les mettre en pratique, si on arrive à accepter ces petites morts quotidiennes dans les choses qui se présentent, dans les circonstances, les renoncements, alors c'est en les construisant qu'on laisse Dieu construire en nous une personnalité qui nous permettra d'aller là où il veut nous mener. Les visions, Dieu nous en donnera. Il y a des grandes visions et des petites visions. Mais notre vision globale, c'est de mourir à nous-mêmes. Frères et sœurs, c'est une étrange vision, mais c'est de mourir à nous-mêmes. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. Seigneur, je voudrais te réclamer encore que, aujourd'hui, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, tu agisses puissamment. Je voudrais te demander, Seigneur, pour si je pense qu'il y a quelques-uns qui sont comme les frères, de Joseph, ils ont le sentiment d'avoir trahi le bien, trahi le beau, trahi le juste, trahi la vérité, trahi la justice. Ils savent qu'ils sont pas en règle avec Dieu, et ils se demandent ce que Dieu peut faire. Quand ils s'imaginent qu'ils devraient comparaître devant le Seigneur, alors ils sont dans l'état d'esprit des frères de Joseph qui l'ont reconnu. Ils disent, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver à moi maintenant? Quel jugement va tomber sur moi? Et je voudrais vous dire, c'est pas lorsque vous allez rencontrer Dieu, vous n'allez pas rencontrer le jugement de Dieu. Vous allez rencontrer la grâce de Dieu. Vous allez rencontrer le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Seulement, il faut que votre cœur change. Il faut que vous ayez laissé Dieu et le Saint-Esprit faire ce travail compliqué, profond, entier, radical, qui vous permet de vous reconnaître comme radicalement coupable. Demandez maintenant à Dieu, dans le secret de votre cœur, demandez à Dieu qu'il vous pardonne. Dites-lui, oui, Seigneur Jésus, j'ai été comme celui qui te vendait. Mais aujourd'hui, je veux être sauvé par toi. Et je voudrais aussi parler à quelques-uns aussi des chrétiens qui sont parmi nous et qui savent que Dieu les a appelés à un renoncement particulier dans quelque chose qui leur paraît difficile. Et ils disent, vous êtes en train de regimber un peu. Vous dites, mais comment ça se fait que Dieu me demande toujours beaucoup à moi? J'ai l'impression qu'il y en a d'autres à qui Dieu demande beaucoup moins quand même. Pourquoi est-ce que je devrais payer plus que les autres, hein? Et le Seigneur te dit d'abord que ce que font les autres ne te regarde pas, que c'est pas ton problème et qu'ils traitent entre eux et Dieu directement. Mais que toi, si tu veux la joie parfaite, alors la joie parfaite, elle est dans le renoncement. Dieu te demande pas beaucoup. Dieu te propose beaucoup. Dieu te propose une voie par excellence pour recevoir beaucoup. C'est la voie du renoncement. C'est la voie que Jésus a appelée de la mort à soi-même. C'est la voie de la nouvelle naissance. Seigneur, je te prie de bénir chacun. Tu vois, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous nous réjouissons de savoir que toi seul, tu pourvois aux besoins de notre âme. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir donné un tel sauveur. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.